On fait pas un clap clap, on fait un.
Un clap trap?
Ouais, ok, super.
Bonjour, bienvenue. Exilen Akjam dans cet épisode 75 de Tête à Tech, le podcast qui explore les impacts des nouvelles technologies sur nos sociétés. Pourquoi tu fais cette tête quand j'annonce que c'est l'épisode 75, Jérémy?
Alors moi, j'écoute ce podcast depuis le début et je tiens à dire que franchement, ils sont devenus beaucoup trop mainstream. Leurs meilleurs épisodes, c'est vraiment la saison 2 de l'épisode 17 à l'épisode 28. Après, ils ont sell out et ça se sent. Je n'arrive pas à croire que des gens écoutent encore ce podcast 3 ans plus tard. Oh mon dieu. Et toi, comment vas-tu?
Tu jouais quel rôle? C'était quoi cet acte en studio?
Je sais pas.
Ok, Paris Hilton. Écoute, moi ça va. Mars 2021, on est toujours dans ce jour sans fin, commencé en mars 2020.
Ça fait un an.
Ah, on parle de quoi aujourd'hui, Jérémy?
Alors moi, de mon côté, je vais parler du bras de fer entre l'Australie et Facebook et Google. Et de ton côté, tu vas parler...
T'as pas regardé.
Comme d'habitude dans ce podcast, tu vas nous parler de la responsabilité des entreprises.
Tech. Comme d'habitude... C'est parti.
C'est parti. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, si vous n'êtes pas australien ou que vous ne vivez pas en Australie, ce qui, entre parenthèses, ne m'étonnerait pas, vu que les gens qui nous écoutent sont principalement...
En France.
Voilà. Mais ces derniers mois, un long bras de fer a eu lieu entre Facebook, Google et le gouvernement australien. En effet, l'Australian Competition and Consumer Commission...
Très bien.
...a proposé une loi qui obligerait les éditeurs à payer pour le contenu partagé sur leur plateforme. Alors pour vous donner un exemple dans un contexte plus familier, la loi, si elle avait été mise en place en France, demande à Facebook de payer Le Monde si un article du Monde était publié sur Facebook, ou demande à Google de payer Mediapart si un article de Mediapart apparaît dans l'onglet Actualité sur Google. Facile à comprendre.
T'as choisi Mediapart.
Alors la nouvelle, évidemment, n'a pas forcément été bien reçue par ces deux plateformes qui sont très contentes d'être un centre d'information à partir du moment où ça n'implique pas d'ouvrir le portefeuille. Après des mois de négociations entre Facebook et le gouvernement australien, Facebook a décidé de faire un gros doigt d'honneur à l'Australie en bloquant, en Australie, le contenu de tous les gros médias sur la plateforme.
Et pourquoi ce doigt d'honneur du coup? Parce que ça leur aurait coûté trop cher?
Parce qu'ils ne voulaient pas. Pourquoi ils ne payent pas et pourquoi ils se mettraient à payer? Eux, ils proposent juste un service. Et c'est... ce qu'ils essaient de démontrer en bloquant, c'est regarder le service qu'on vous propose. Ah, si vous voulez pas qu'on travaille en Australie, on travaillera pas en Australie. Mais la réponse officielle est un peu plus subtile.
Je vois que Jérémy, lobbyiste Facebook, ça rentre petit à petit.
Publié le 17 février, la réponse officielle de Facebook, encore une fois, explique leur position. Je vous la résume très simplement. Ils commencent par un « ok boomer », en expliquant que la loi australienne est basée sur une incompréhension sur la relation entre la plateforme et les personnes choisissant de publier de l'actualité sur la dite plateforme. Le cœur lourd, ils ont dû faire un choix entre accepter de payer ou de bloquer tous les grands médias australiens. Et ils ont évidemment choisi de bloquer les médias. Facebook, contrairement à Google, permet aux médias australiens de publier sur la plateforme leur contenu et d'ainsi profiter d'une audience fantastique. C'est un choix. Facebook ne navigue pas sur le web à la recherche de contenu. C'est le contenu qui vient à eux, contrairement à Google. En sortant les calculettes, Facebook trouve même qu'ils se prennent quand même une sacrée disquette. Grâce à leur système de publicité, ils ont réussi à faire gagner environ 400 millions de dollars australiens aux grands médias. Alors que pour Facebook, les nouvelles des grands journaux, c'est que 4% du contenu partagé. C'est clairement pas leur cœur de marché.
Ça aurait été sympa de voir combien Facebook a gagné sur le dos des médias australiens.
Je pense pas que c'est forcément très utile dans leur argumentaire.
Oui, mais voilà.
Alors en plus, c'est ultra bête parce que Facebook voulait quand même vachement investir dans l'Australie à travers le programme Facebook News, un programme permettant de mettre en avant les articles de certains partenaires contre rémunération. Car Facebook veut bien payer pour le contenu, mais si c'est eux qui décident, comment, combien, pourquoi? Et vu que le gouvernement...
Et surtout quoi ?
Et vu que le gouvernement australien veut forcer la main, eh bien Facebook va foutre à la poubelle ce super projet et investir dans d'autres pays, genre des pays qui sont moins brise-gonades. Bien que conscient de l'importance de l'accès à l'information pour le bien-être des démocraties, Facebook se voit quand même obligé d'interdire la publication des médias australiens sur la plateforme et de rendre impossible pour les Australiens l'accès aux journaux internationaux. Bon, là, avec le Covid et tout, ils vont être sympas et laisser l'AFP faire leur travail d'information. Puis, finit sur une petite timeline à télécharger pour montrer que Facebook a toujours soutenu le journalisme en Australie et en Asie.
Oh, j'allais dire petit astérix, sauf en Birmanie, sauf Singapour, sauf...
Alors, petit aparté, le sujet de cet épisode n'est pas sur le mania des médias Rupert Murdoch, et il n'y a clairement pas à applaudir la signature de Google avec sa société Newcorp. Ce qui est intéressant, c'est que le ton de Facebook n'est clairement pas le même que celui de Google. Il faut dire que Google a pour mission d'organiser les informations du monde et que ça paraît difficile de faire ça sans collaborer étroitement avec les médias produisant les sujets d'actualité. Facebook, quant à eux, se positionne vraiment que, entre guillemets, un connecteur entre les gens. Et les gens, ils partagent pas que des articles de journaux. Ça pèse pas forcément tant que ça sur la balance. Et c'est pour ça que Google a choisi comme stratégie de s'adapter à chaque pays, pour faire un maximum de business et accepter de payer quand les États serrent la vis. Alors que Facebook continue de se draper dans l'entrepreneuriat à l'américaine et menace à demi-mot de fermer les robinets afin de démontrer à quel point leur service est nécessaire. Dans le cas de l'Australie, c'était pas à demi-mot, ils l'ont carrément fait. Au final, l'Australie n'a pas reculé et a fait passer la loi. Suivi par Facebook, tout penaud d'annoncer qu'après négociation avec le gouvernement australien, ils allaient réactiver la publication des articles de presse en Australie et qu'ils avaient même déjà commencé à signer des accords avec la presse australienne. Mais que attention ! Facebook se réserve le droit de remettre en place un ban si besoin. Alors j'en parlais dans l'épisode 72 de ce podcast et plus précisément dans la partie sur la censure politique sur les réseaux sociaux. Mais alors que l'on continue de nous présenter comme inévitable la progression des énormes boîtes tech en compagnie État pouvant se battre à armes égales contre les gouvernements, il se trouve que sur ce point précis, les gouvernements arrivent à faire plier les géants du net.
Et surtout, j'ai envie de dire, assez souvent, tu as l'impression qu'il faut que ce soit des grandes nations, entre guillemets. L'Australie est considérée comme étant une grande nation ?
Oui, je pense quand même. Alors déjà, en Europe, Google a été forcé de négocier l'année dernière avec des maisons d'édition françaises comme Le Monde, justement. Et même aux États-Unis, Facebook a annoncé bien vouloir payer The Wall Street Journal, The Washington Post. Si vous n'avez pas la mémoire courte, ces histoires vous font sûrement penser au bras de fer entre Google et l'Espagne en 2014, où une loi a été passée pour que les agrégateurs de news payent les créateurs de contenu. Google, à l'époque, avait répondu en fermant tout simplement Google News en Espagne. Le sujet est évidemment extrêmement compliqué. Certaines analyses argumentent que ce type d'accord rend encore plus dépendants les médias à ces plateformes tech. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi il y a quelques années la presse internationale s'est lancée dans la production vidéo, ce n'est pas tout simplement pour copier le succès des sites d'infodivertissement comme Brut ou Combini, mais tout simplement car Facebook publiait des chiffres affolants, attirant des médias à la recherche de toujours plus de bénéfices.
Justement, ces chiffres n'ont pas été débunkés en montrant qu'ils avaient été...
Exactement, il y avait une différence parfois de 500%. Et donc il a fallu quelques années pour que les médias réalisent qu'ils avaient justement été floués et que les chiffres étaient inexacts. Mais la dépendance a déjà été créée. Tout ça pour conclure. Le retour de bâton de la tech, ce qu'on appelle le tech clash, et qui continue à n'avoir que très peu d'impact sur la consommation par les citoyens et les utilisateurs, continue d'être assimilé par les gouvernements de tous bords et on peut garder bon espoir de voir aboutir la création ou la mise à jour de lois visant à réguler les géants du numérique.
Il y a une dizaine de jours, le Quai d'Orsay, à travers son ambassadeur numérique, a publié un projet de diplomatie numérique.
Alors je t'arrête. On a un ambassadeur numérique ?
Ouais, exactement. Le poste d'ambassadeur numérique de la France existe depuis novembre 2017 et il est en charge du cyberespace. J'adore, j'adore. Bon, après, la France n'est pas le seul pays. Il en existe dans d'autres comme l'Australie, l'Estonie ou le Danemark. qui possèdent même des locaux à la Silicon Valley à Pékin. Ils en font toujours trop, ces gens du Nord. Je te mettrai en description du podcast un article du Monde qui est assez captivant, en fait, sur les implications de ce métier, qui ne se joue pas comme à l'ONU, et qui, du coup, ne peut pas s'appuyer sur les mêmes règles que les autres diplomates peuvent avoir, c'est-à-dire le Golden Gun qui dit « Moi, j'ai la bombe nucléaire, donc j'ai raison. Ça marche pas quand t'es ambassadeur numérique. » Et en fait, je parle de ce rôle, de ce métier, parce que l'équipe donc, de l'ambassadeur numérique a sorti un comparateur de documents contractuels des principaux fournisseurs de services en ligne. En gros, vous pouvez aller vérifier les conditions générales d'utilisation de Blizzard Entertainment, par exemple, et voir ce qui a été rajouté ou au contraire enlevé, d'une année à l'autre. Verba... Attends, tu ne te moques pas de mon latin. Mm-hmm. Verba volant scripta manent. J'ai arrêté le latin en troisième. Chut, chut, chut. Ce qui veut dire les paroles s'envolent, les écrits restent. Vas-y, fais ton commentaire sur mon latin.
Ah, c'est une langue morte, hein, tu la prononces comme tu veux. Hein,
Ce projet a été développé dans, je cite, une optique de transparence, d'intérêt général, de collaboration, d'agilité et de bienveillance par l'équipe de l'ambassadeur français pour le numérique.
Il y a toujours une note de bienveillance dans le numérique. C'est... Je ne sais pas si tu as remarqué.
Oui, parce qu'on est des gens bien dans le numérique. C'est ça. Ça se sait.
Bien sûr.
Cet effort de transparence et de partage d'informations est à louer. Mais moi, personnellement, je reste sur ma faim. D'abord, une traduction serait nécessaire, étant donné que ces documents sont majoritairement en anglais. Et ensuite, j'aurais besoin d'un décodeur, en fait, de ces documents. Certains sites comme Terms of Service Didn't Read, pour ceux qui traînent beaucoup sur Internet, la blague c'est le Too Long Didn't Read.
J'ai pas lu.
Exactement. Ce site, par exemple, donne des précisions presque vitales sur chacun de ces documents. Par exemple, tu apprends que les CGU, donc les conditions générales d'utilisation de Reddit, disent « Ce service peut conserver des données à caractère personnel après une demande d'effacement pour des intérêts commerciaux ou des obligations légales. » Ou alors, YouTube peut avoir accès à l'historique de ton navigateur et voir tout ce que tu as pu acheter jusqu'à présent.
Il y a quelques jours, j'ai un mail poubelle sur Google que je mets partout. Comme ça, j'ai un super profil très personnalisé. Bref. Et je me suis perdu dans les options. Et j'ai vu qu'en fait, je n'avais pas désactivé le traçage. Et de nos jours, quand tu utilises n'importe quel service Google, c'est-à-dire, il y en a énormément, hein, YouTube, AdSense, etc. Ils tracent tout. Il trace même ce qui arrive dans tes mails. C'est-à-dire que tu achètes des trucs sur Amazon. Bon, déjà, tu achètes des trucs sur Amazon. Mais il n'y a pas que Amazon qui le sait. Il y a aussi Google.
Ouais.
Et j'étais en train de regarder. Et ça traçait tellement de choses. J'étais vraiment très impressionné.
Par exemple, quand tu reçois un billet d'avion dans ta boîte Gmail, directement, Gmail te dit « Est-ce que vous voulez qu'on vous mette un rappel pour votre vol ?» ou vous rappeler 3 jours avant de faire votre enregistrement. La même chose pour quand tu fais une réservation au restaurant et que tu as le mail de confirmation, bim, ça te le met dans ton calendrier.
Et juste pour finir sur mon aparté, tu peux pas lui demander à ce qu'il ne te traque pas. Le mieux que tu puisses faire, c'est que tu supprimes au bout de 3 mois. Et j'ai trouvé ça... Je sais pas si c'est très RGPD friendly, si un chief data officer nous écoute.
Je vois qu'un courrier va partir à la CNIL. Et dans la même idée justement de s'appuyer sur des écrits pour informer les usagers, Ranking Digital Rights vient de sortir son rapport 2020. L'objectif est toujours le même, évaluer des plateformes numériques et des opérateurs de télécommunications sur leurs engagements en matière de droits numériques. Le classement 2020 du Digital Rights Corporate Accountability Index a évalué 26 plateformes numériques et telcos en fonction de leurs engagements et politiques publiquement partagées qui affectent la vie privée et la liberté d'expression et d'information. On est vraiment dans toute la partie sauvons nos démocraties, on va dire. Pour te donner un ordre de grandeur, ces entreprises, en 2020, donc, pesaient plus de 11 000 milliards de dollars. J'ai dû revenir sur ce chiffre parce qu'à un moment, je me suis dit non, je me suis trompée. Ça peut pas être les calculs sont pas bons. Si, c'est bien 11 000 milliards. Et leurs produits et services touchent une majorité de 4,6 milliards d'internautes dans le monde. La moitié de la planète. Donc, 2020, c'est la 5e année que ce rapport est produit. Et cette année, Amazon et Alibaba ont été rajoutés à la liste.
Félicitations.
Ah bah, tu vas voir que pour chacune de ces entreprises, jusqu'à 5 verticales sont examinées. Par exemple, pour Amazon, l'équipe s'est penchée sur Amazon.com, donc la plateforme de e-commerce, Amazon Alexa, qui est l'assistant digital, Amazon Drive. Pour Google, ils se sont penchés sur Google Search, Gmail, YouTube, l'écosystème Android et Google Drive. Ça donne une assez bonne idée, globalement, de ces entreprises. Et ensuite, des notes sont données sur la base de 58 critères. Tu peux avoir des points de 0 à 100. Mmh. Autour de la gouvernance, la liberté d'expression et d'information et le respect de la vie privée. Dans le détail, ils prennent en compte des lois locales ou internationales, par exemple la déclaration des droits de l'homme, la protection des lanceurs d'alerte, les procédures d'application des conditions de service, l'usage des algorithmes, blablabla. C'est hyper détaillé, tu pourras voir sur le site, c'est assez intéressant. En tête du classement des plus vertueux, tu as d'abord Twitter, avec un score de 53%. Suivi par...
Ça veut dire que le service le mieux scoré est à 53%.
Oui, ça va jamais au-delà.
Ok.
Ensuite, tu as Verizon Media qui détient Yahoo Mail à 52% et Microsoft à 50%. Ouais, je ne savais pas que Verizon détenait Yahoo Mail non plus. Tout en bas du classement, par contre, tu as Samsung sur la partie implémentation d'Android et Samsung Cloud. Mm-hmm. Alors, si vous avez eu un Samsung une fois dans votre vie, je pense que ça ne vous... étonnera pas de savoir qu'ils ont eu 23%. Tencent, donc le groupe chinois qui détient Qzone, QQ, WeChat, Tencent Cloud.
Ils détiennent à peu près tout le monde du gaming mobile aussi.
Oui.
Ils détiennent Riot. Enfin,
oui.
C'est peut-être une des plus grosses entreprises mondiales de télécommunications qu'on ne connaît pas en vrai.
Exactement. Et Tencent est à 22%. Amazon, bon dernier, 20%.
Bravo.
Tu vois. Et donc, Amazon n'a eu que 20 points sur les 100 possibles dont je parlais tout à l'heure.
Parce qu'ils ont fait un chèque.
Non, je pense qu'ils avaient fait un chèque, ils seraient peut-être avant-dernier. Avant-dernier, tu vois, ils seraient pas juste dernier. Non. Mais justement, donc, s'ils sont derniers, c'est parce que l'entreprise révèle très peu sur la manière dont elle traite ou sécurise les informations des utilisateurs et sur ses politiques de conservation des données, malgré sa grande dépendance vis-à-vis des données des utilisateurs, en fait. Ouais. C'est tout son modèle économique réside sur les données de ses utilisateurs. Bon, le plus intéressant dans ce rapport, c'est pas forcément le classement. Parce qu'en fait, on sait qu'ils sont tous mauvais. Il y en a juste des moins mauvais que les autres. Mais c'est surtout les apprentissages, en fait. D'abord, les bonnes nouvelles. En 2020, presque toutes les entreprises évaluées dans l'index 2019 ont amélioré leur score sur le partage d'informations touchant à la liberté d'expression et à la vie privée des utilisateurs. À l'exception de Google et AT&T, toutes les entreprises ont dépassé leur score de 2019.
Bravo.
Par exemple, on se souvient de Apple au CES 2019, qui avait fait pas mal d'affiches où il se moquait de Google en disant « Ce qui se passe sur votre téléphone reste sur votre téléphone. Nous, on protège votre vie privée. Faites-nous confiance.
» Faux.
Ah mais on s'en souvient. L'autre bonne nouvelle, elle est en lien avec la sécurité des données qui a également été améliorée au fil du temps. Mm-hmm. En 2020, la moitié des 26 entreprises du classement ont divulgué des informations sur la manière dont elles traitent les violations de données contre seulement 3 entreprises en 2017.
Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est... Ayant travaillé dans le domaine, quand les créateurs de bases de données, en tout cas les designers des bases de données, sont sérieux ou en tout cas à un bon niveau, ils t'expliquent qu'en gros, il ne faut pas penser à qu'est-ce qui va se passer si un jour ta base de données va leak, mais quand ? Parce que ça va arriver tôt ou tard. Donc en fait, l'argumentaire derrière, c'est qu'il ne faut pas stocker des informations dont tu n'as pas besoin pour rendre le service.
Tout à fait.
Parce que tu vas avoir... Tôt ou tard, ta base de données, elle va glisser quelque part, il va y avoir un hack, on ne sait pas quoi, ça va arriver. Point.
Pour travailler quasiment toutes les semaines avec la madame RGPD de mon taf, c'est nos discussions quotidiennes. Pourquoi tu as besoin de ça ? Je ne sais pas, un jour je pourrais m'en servir. Et à chaque fois, elle est en mode « Ah ouais, je sais que tu sais. » Bon, maintenant, les mauvaises nouvelles. Un élément qui remonte assez visiblement, en fait, c'est le manque d'informations sur la modération du contenu, un de nos sujets de prédilection. Il semble y avoir des manquements aussi sur la collecte et l'utilisation des données, mais aussi des algorithmes dont nos vies quotidiennes dépendent, en fait. Aucun des réseaux sociaux n'offrait d'informations adéquates sur la manière dont ils façonnent, recommandent et amplifient les contenus générés par les utilisateurs ou le contenu payant.
Mais parce que c'est leur cœur de métier, c'est ça qui fait l'argent au final.
Ben voilà, mais on aimerait bien savoir comment ils font de l'argent.
Ah mais je pense que même eux savent pas.
La fameuse boîte noire, même eux ne savent pas ce qu'il y a dedans.
Ils savent ce qu'ils ont créé, ils savent pas comment vraiment ça... Bref.
En vrai, mais tu as raison en fait, il semble qu'il y ait très très peu de contrôle sur les technologies et les systèmes qui sont à l'origine de ce flux énorme de contenu, d'informations, de tout ce que tu veux, qui sont globalement problématiques en ligne. Et à cela, t'ajoutes un manque d'une sorte de mécanisme de responsabilité qui soit assez clair pour gérer toutes les infractions. C'est toujours ce qu'on dit. Je crois que c'est sur Twitter où il y a quelques semaines, des féministes se faisaient ban parce qu'elles parlaient de viol et d'inceste. Et en fait, les règles ne sont pas claires du tout. À l'exception de Telefonica et de Vodafone, donc de Telco, aucune entreprise n'a publié d'engagement politique visant à respecter les droits de l'homme dans son développement et dans l'utilisation de ses algorithmes.
Tu sais, les droits de l'homme, à un moment, les hommes, ils ne peuvent pas avoir tous les droits non plus.
Pourquoi j'ai entendu un accent ivoirien là? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'était pas volontaire. Parce qu'on parle des droits de l'homme. Mais les droits des entreprises, est-ce qu'on en parle autant? Non. Et pourquoi? Voilà, tu sais pas quoi répondre.
Pourquoi tu deviens lobbyiste grand groupe dans cet épisode? Tu prépares...
Une reconversion
peut-être?
Ouais,
le moment où tu retournes ta veste.
Moi j'ai entendu ambassadeur du numérique, contactez-moi.
Jérémy, si je te montre une carte de l'Europe, tu sais placer les pays?
Bien sûr. Enfin, les pays importants, quoi.
Ça veut venir ambassadeur. Bon, on a déjà discuté ici du usual suspect Facebook, qui a été à la source de certaines infractions les plus inquiétantes quand même que les systèmes algorithmiques ont pu déclencher ces dernières années.
Oui.
Bon, tu m'as regardé avec des yeux de quoi? Et malgré l'Oversight Committee que l'on a déjà évoqué ici, l'entreprise n'offre aucune information exploitable sur la façon dont ces algorithmes sont construits. Ni sur la façon dont ils fonctionnent, ni sur qui les surveille.
Non.
On sait juste qu'il y a un Oversight Committee. Un deuxième souci qui a été remonté, c'est dans l'implémentation des promesses qui sont émises par ces entreprises, en fait. En 2020, la plupart des entreprises n'ont pas réussi à démontrer qu'elles mènent des évaluations solides et systématiques pour identifier ou atténuer les risques liés aux droits de l'homme. En gros, tout le monde dit « on va bien faire », mais personne ne fait. En conclusion, Jérémy. Ce rapport donne des recommandations aux entreprises pour s'améliorer et au gouvernement pour se préparer.
C'est bien.
Pour les entreprises, c'est assez simple. Soyez transparentes, redonnez le contrôle de leurs données à vos utilisateurs, contrôlez mieux vos algorithmes, contrôlez les résultats émis. C'est un peu ce qui est dit assez souvent. Pour les gouvernements, c'est un peu plus complexe. La première recommandation, c'est de faire en sorte que les lois nationales soient en cohérence avec les lois internationales et veiller à ce que les organismes gouvernementaux qui appliquent et mettent en œuvre ces lois soient soumis à un contrôle solide et efficace. Sauf qu'en fait, ça parle déjà de contrôle. Moi, j'ai envie de dire donner du pouvoir à ces organismes gouvernementaux. Moi, j'ai l'impression qu'ils n'en ont juste pas. Enfin, je parle du cas de la France un peu plus spécifiquement, mais...
Ils peuvent écrire des dossiers, faire des recommandations, et après, voilà, ça sert pas à ça.
On les citera pas parce qu'on les a mis en plus. Deuxième recommandation, donner des recours aux individus face à ces entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises devraient être tenues de fournir des mécanismes de réclamation et de recours accessibles et efficaces aux personnes qui estiment que leurs droits n'ont pas été respectés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tu te perds dans des boucles de pages qui te renvoient les unes aux autres sans jamais pouvoir contacter qui que ce soit. Et une des dernières recommandations qui est donnée au gouvernement, c'est de demander plus de transparence à ces entreprises en étant eux-mêmes plus transparents. D'ailleurs, dans ce cas-là, la France vient de lancer l'élaboration du troisième plan pour un gouvernement ouvert dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert qui regroupe 80 pays à travers le monde. Pays et organismes, organisations locales, associations, personnes de la société civile, etc., qui vont s'engager à respecter des grands principes autour de la transparence de l'action publique, notamment via l'ouverture des données, la participation citoyenne, etc., etc. Les travaux ont été lancés, il me semble, cette semaine, et on saura très vite ce que ça va donner par la suite. Anecdote, j'ai vu que le Sénégal était membre depuis 2018.
Et donc ça te rend optimiste sur la prétention de cette organisation.
Je sais pas, le Sénégal est toujours en train d'élaborer son premier plan, donc je sais pas ce qu'ils ont fait depuis 2018. Mais oui, pour un peu travailler avec les équipes de l'Open Government Partnership, je fais confiance. Surtout qu'une grande partie de leur travail est surtout autour de la lutte contre la corruption. Mmh. Parce que transparence et corruption ne vont pas bien ensemble. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Tête à Tech. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien.
Ou lâchez même un petit commentaire, s'il vous plaît. Je vois que vous mettez des étoiles, rajoutez des commentaires, ça fait vraiment plaisir.
C'est vrai, on le dit pas, mais on les lit. Et on les lit et ça nous fait toujours plaisir en plus. Donc allez-y, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez venir nous faire coucou sur les réseaux sociaux. Regardez dans la description du podcast, vous pourrez voir où nous parler. Et puis on se dit à très bientôt pour des nouvelles aventures.
À la prochaine.
Ciao.
Bye.